Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav David Pinto. Bonne écoute et bon limoud.
Aujourd'hui, la bouteille, c'était la hiloula de Rabbi Meir Balanes, alayhi salam. Et comme vous savez, parmi les 24 000 talmidim, élèves qu'il avait à Rabbi Akiva, alayhi salam, qui sont tous morts entre Pessah et l'Agva Omer, les 4 tzadikim sont restés vivants. Et parmi les 4, il y avait Rabbi Meir Balanes et Rabbi Shimon Bar Yochai qui sont restés vivants. Donc vous pouvez imaginer la grandeur de Rabbi Meir alayhi salam s'il est resté vivant parmi les 24 000 talmidim, c'est que Rabbi Meir n'était pas n'importe qui. Et bien sûr, Rabbi Shimon Bar Yochai aussi n'était pas n'importe qui. Nous allons essayer de comprendre ce soir, si on s'est réunis ce soir à la mémoire, comme vous avez vu dans les feuilles du Tzadik Abhaikin Zichrono Livracha et de Madame Malka Zichrono Livracha et M. Benayou Zichrono Livracha et le rabbin Toledano, Zichrono Livracha. Et aussi, il y a un qui, aussi, que ses enfants venaient à la yeshiva, M. Zadeh, Zichrono Livracha. Donc, j'ai réuni tout. Et aussi, il y a M. Ancré aussi. Donc, ces gens-là, il y a la tzonde que HaKadosh Baruch Hu propose leur âme en paix, Bisrout, Kitzadikim. Aujourd'hui, à la bouteille, vous les femmes, surtout, vous vénérez beaucoup Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, mais je ne crois pas que vous connaissez qui était leur valeur. Peut-être vous connaissez par votre simple émouna, par votre simple foi que vous avez, vous allumez des veilleuses, vous dites Allahu Akbar, mais je crois que le fond de cette tzaddikim là, vous ne connaissez pas le fond. C'est quoi vraiment? Qui était Rabbi Meir Balanes? Ce soir, je ne vais parler que de Rabbi Meir Balanes, non pas de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai à la chambre, c'est Alag Bar Omer. Et chaque tzaddik en parle à son temps. Donc aujourd'hui, c'est le zman de Rabbi Meir Balanes. Je commence par David HaMelech alayhi salam qui dit sur Moshe Rabbeinu, Alita la Maron Shavita Shevi. Vous savez tous que Moshe Rabbeinu alayhi salam, lorsqu'il est monté au ciel pour recevoir la Torah, mais comme vous le savez, nous approchons Shavuot, et de jour en jour qu'on approche Shavuot, de jour en jour qu'on approche Shavuot, il y a une préparation à faire pour pouvoir se préparer davantage pour cette Torah que peut-être nous ne connaissons pas tous. Peut-être malheureusement plusieurs parmi nous respectent la Torah, entendent parler de la Torah, mais la respecter, c'est ça le plus important. Donc mes amis, lorsque Moshe Rabbeinu alayhi salam est monté à Har Sinai, il a eu une discussion avec les Malachim. Les Malachim, au départ, ils étaient pour la Torah, et finalement, vers la fin, lorsqu'ils ont vu qu'ils allaient perdre un objet précieux, la Torah, c'est pas n'importe quoi, c'est un trésor très spirituel. Même que les Malachim n'auraient vraiment pas besoin de cette Torah, étant donné qu'il n'y a pas de Tzara chez eux, les Malachim, c'est des anges. Qu'ils n'ont pas besoin d'être Sahara. Là-bas, ils sont au ciel, ils sont là-haut, ils sont bien protégés, pas comme nous, ici, on n'est pas protégés. Donc, les Malachim, malgré tout, même qu'ils n'ont pas d'être Sahara, ils avaient un peu de la peine de voir ce trésor quitter le ciel. Alors, Moshe Rabbeinu, à la vache, avec tous ces arguments, il était obligé d'avoir des arguments très importants avec les Malachim pour faire descendre la Torah à Am Israël. Et voilà. C'est écrit vers la fin, Moshe Rabbeinu les a convaincus. Moshe Rabbeinu alayhi salam, par une force très spirituelle qui est tombée sur lui, parce que Akash Baruch Hu l'a aidé, il a dit garde qui c'est qui vous dit. Il a dit Akash Baruch Hu, je vais t'aider pour les convaincre. Parce que pour convaincre des Malachim, c'est pas facile. C'est pas des êtres humains qui peuvent convaincre facilement des Malachim. Il a fallu l'aide de Akash Baruch Hu. Et bien, mes amis, mais dans ce monde-là, je peux dire, et Haramim le disent, le Lehashim et le Yachullo. Ça veut dire, Rabotai, que HaKadosh Baruch Hu, si nous n'êtes pas dans ce monde-là pour combattre le Tzara, on ne pourra pas le convaincre. C'est très dur. C'est écrit à la bouteille à l'état de Marom Shavita Shivi, Moshe Rabbeinu alayhi salam, lorsqu'il a gagné les Malachim, il les a convaincus que la Torah, il nous fallait la Torah, alors les Malachim, ils ont commencé à donner des cadeaux à Moshe Rabbeinu. Chacun quel cadeau croyait qu'il leur a donné? Des montres Cartier ou des bijoux? Non. Les cadeaux que les Malachim, ils ont donné à Moshe Rabbeinu, c'est des cadeaux spirituels. C'est pour comprendre mieux, davantage, les mitzvot. C'est ça les cadeaux que les Malachim, ils ont donné à Moshe Rabbeinu. Pour comprendre un peu plus les mitzvot. Donc, Rabotai, ils ont donné des cadeaux à Moshe Rabbeinu. Et voilà, mes amis, parmi les cadeaux que Moshe Rabbeinu a pris, seul, je dirais, il a volé. Pas volé, mais c'est comme quelqu'un qui va à la guerre, et après, une fois qu'il a gagné cette guerre, il prend un butin. C'est quoi le butin qu'il a pris, Moshe Rabbeinu? Chevi. Chevi, la piche m'a envoyé haï. Arizal HaKadosh lui dit, c'était Shimon ben Yochai. C'est ça, Chevi. Il a pris cette belle âme de Rabbi Shimon ben Yochai. La bataille, aujourd'hui, je comprends très bien. Et je suis content de vous l'annoncer. Que jusqu'à présent, toujours, et toujours nous tous, on s'est posé des questions. Comment se fait-il que Rabbi Shimon ben Yochai, alayhi salam, d'où il a su tous ces trésors de la Torah? Vous savez, aujourd'hui, s'il n'y avait pas la Bishmawayahai qui nous a expliqué les trésors de la Torah, eh bien, croyez-moi, mes amis, aujourd'hui, la plupart des mitzvot, on n'aurait pas pu comprendre leur signification. La majorité des mitzvot, aujourd'hui, sont tous interprétés, expliqués par la Bishmawayahai. Aujourd'hui, beaucoup de tout ce qu'on fait presque, les minhagim, les coutumes qu'on fait au Maroc, en Algérie, en Tunisie, que ce soit les Ashkenazes ou les Sfarades, eh bien, c'est grâce, on les comprend mieux davantage grâce à l'explication de Rabbi Shimon ben Yochai alayhi salam. Alors la question est suivante: d'où Rabbi Shimon ben Yochai a pu, comment il a pu nous dévoiler ses secrets? Comment Rabbi Shimon ben Yochai alayhi salam nous a dévoilé ses secrets là que personne, même les Bnei Israël pendant 2000 ans depuis la construction du temple jusqu'à l'époque de Rabbi Shimon ben Yochai, aucun n'a pu les comprendre? Rabbi Shimon ben Yochai, il vient non pas qu'il nous les explique, mais il les écrit aussi. Ça veut dire chacun a accès à comprendre toutes les raisons de la Torah. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ben, la bouteille, la raison, elle est simple. La raison, la bouteille, elle est simple. C'est grâce à ce butin que Moshe Rabbeinu a pris. Moshe Rabbeinu, à la Bachalom, lorsqu'il est monté au ciel, c'est écrit Alitala Marom Shavita Shivi. Il a pris un butin qu'il a caché sous ses vêtements. L'âme de Rabbi Shimon ben Yochai, qui était cachée sous ses vêtements. Automatiquement, pendant 40 ans, que Moshe Rabbeinu a enseigné la Torah à Israël, pendant 40 ans, que Moshe Rabbeinu a eu des révélations spirituelles, qui était avec lui, qui était en train d'écouter avec lui, Rabbi Shimon ben Yochai. Donc, à Boutaï, aujourd'hui, je comprends très bien comment Rabbi Shimon ben Yochai a pu dévoiler tous ces secrets qui sont vrais, parce que il était dans la poche de Moshe Rabbeinu, il pouvait bien, il était en train d'écouter tout ce que HaKadosh Baruch Hu lui a enseigné. Mes amis, ça, c'est le côté de la Torah orale, mais la Torah écrite. Alors, je comprends très bien aujourd'hui, mes amis, on fait la Hiloula de Rabbi Shimon ben Yochai. Mais pourquoi on fait aujourd'hui la Hiloula de Rabbi Meir Alanes? Pourquoi? Vous savez que nous sommes en plein deuil des 24 000 talmidim de Rabbi Akiva. Ah, pourquoi on fait la Hiloula de Rabbi Meir Alanes? Je comprends très bien Rabbi Shimon ben Yochai, grâce à lui qu'aujourd'hui on comprend la Torah orale. Mais Rabbi Meir Alanes, pourquoi il y a Rabbi Noah Kadosh, il y a Rabbi Yehuda Hanassi, il y a Rabbi Shimon ben Gamliel, il y a Hillel HaZaken, il y a beaucoup de tzadikim qu'on ne fait pas un honneur pour eux, qu'on les évoque pas, on ne fait pas une grande hiloula à leur mémoire. Pourquoi on a pris que Rabbi Meir Alanes et Rabbi Shimon ben Yochai? Vous, les amis, vous savez qui était Hillel HaZaken? Vous savez qui était Rabbanu Hanan Bezakai? Hacham lui dit, s'il n'y avait pas Rabbanu Hanan Bezakai, aujourd'hui, la Torah aurait été oubliée. Rabbi Hiya, s'il n'y avait pas Rabbi Hiya, la Torah aurait été oubliée. C'est grâce à Rabbi Hiya que la Torah aujourd'hui, on peut l'étudier. Alors pourquoi on ne fait rien pour Rabbi Hiya? Pourquoi on ne fait rien pour Rabbi Hanan Bezakai? Pourquoi on ne fait rien s'il n'y avait pas Rabbi Hanan Bezakai? Titus Harasha, il aurait pu tuer tous les tzaddikim. C'est Rabban Yohanan Bezakai qui a sauvé les hachamim. C'est grâce à lui que la yeshiva de Yavne a été construite. Au moment que les Romains étaient en train de massacrer tout Am Israël, surtout s'attaquer aux rabbanim. Pourquoi on ne fait rien à leur mémoire? Pourquoi Rabbi Meir Bar Nes? Je comprends Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne savait pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Je peux dire peut-être qu'on n'avait pas compris les secrets de la Torah. Mais Rabbi Meir Bar Nes, vous savez, Rabotai, il y a Hachamim, ils nous disent Stam Mishnah Rabbi Meir. Ça veut dire, Rabotai, que dans la Torah, ce qu'il faut bien comprendre, il y a, pour ceux qui fréquentent les commentateurs à Torah, il y a beaucoup de fois dans les Mishnayot, il y a des Mishnayot qui sont écrits Stam. C'est pas écrit quel rabbin a dit tel ou tel halakha. Hachamim, ils nous disent que dans les Mishnayot, lorsqu'il n'y a pas de nom qui mentionne cette halakha, cette loi, c'est Rabbi Meir. Vous imaginez la Bouddha, combien de Mishnayot, combien des centaines de Mishnayot, ils sont écrits Stam, il n'y a pas de nom. Qui les a dit? On ne sait pas, c'est Rabbi Meir Balandès. Des centaines de halakhot, c'est Vadei, c'est des halakhot, que c'est Rabbi Meir Balandès qui les a dit. Et d'où Rabbi Meir Bar Nes, il a pris toutes ces lois à tel point que c'est lui qui a eu le courage de les dire. Rabotai, je vous dirai, c'est ça le cadeau que Moshe Rabbeinu, il a pris de Har Sinai. Il a pris deux Neshamot. La première, c'est Shavit Hashivi, Shimon ben Yochai. Cette belle Neshama de Rabbi Shimon ben Yochai, que grâce à Rabbi Shimon ben Yochai, aujourd'hui, on peut comprendre mieux les secrets de la Torah. La deuxième abodaï, c'est Rabbi Meir Bar Nes. Parce qu'on dit, Alita la Maram, tu es monté au ciel, la karta matanot, Adam, tu as pris des cadeaux. Matanot, c'est du verbe matnitin, du verbe mishnah. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il n'a pas pris uniquement la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais il a pris aussi la neshama de Rabbi Meir Bar Nes. Donc abodaï aujourd'hui, si on fait deux hiloulot de Rabbi Meir Bar Nes et de Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant ces périodes-là, c'est pour nous apprendre de s'attacher davantage à la Torah orale et la Torah écrite. Torah orale de Rabbi Shimon Bar Yochai et la Torah écrite de Rabbi Meir Bar Nes alav shalom. Nous sommes le mois de Iyar. Iyar, c'est le mois de la lumière, Ahara. La lumière. Et si la bouteille, vous voyez le nom de Rabbi Meir Bar Nes, tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir. C'est la Gematria Ram Iyar. Rabbi Meir, ça veut dire, c'est s'élever, il s'est élevé dans sa lumière. Ça veut dire, Rabotai, que Hachanim, ils ont horizon d'appeler Rabbi Meir, Rabbi Nehorai. Rabbi Nehorai, c'était Rabbi Nehorai, Hachanim disent, Shehir, Aine Hachamim, Bahalacha. Rabbi Meir, Bahala Nes, Al-Vasholom, il avait une chokma, une puissance, lorsqu'il interprétait quelque chose. À telle époque, Hachamim, lorsqu'il y avait une halakha qu'il ne comprenait pas, il y avait une lumière, il éclairait comme un régénérateur. Rabbi Meir alayhi salam, il avait ce pouvoir, ce courage d'éclairer par ses explications les yeux de Hachamim. Mais quel Hachamim? On parle des grands Tanaïm, on parle des grands Tzadikim. Et ces grands Tzadikim, là, sans Rabbi Meir Bar Nes, eux-mêmes, ils ne pouvaient pas comprendre bien la halakha. Il a fallu que Rabbi Meir Bar Nes, venait pour éclairer, pour luminer, pour donner la lumière à une halakha. Vous savez, à côté, il y a beaucoup de dîners dans la Torah. Et beaucoup de fois, on fait des dîners, on fait des halakhot sans comprendre pourquoi on les fait. Peut-être. Bon, on les fait parce qu'on nous a dit de les faire. Mais lorsqu'il y a un rabbin qui vient, il vous explique, il vous éclaire. Non pas que vous faites la mitzvah, la halakha, vous la faites mieux et davantage, mais il y a comme une lumière qui tombe, il y a un sourire. Beaucoup de fois ça nous arrive, lorsqu'il y a quelqu'un qui est tombé à la fois, il y a un sourire, il sourit, il est content. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent il n'a pas bien compris la halakha, et aujourd'hui il la comprend davantage. Il y a toujours, c'est extraordinaire, beaucoup de fois, surtout pour ceux qui fréquentent des endroits de Torah, toujours on va voir sur leur visage, lorsqu'ils écoutent quelque chose qui leur plaît, il y a un sourire qui tombe sur leurs lèvres, un sourire. Et ce sourire-là, la bouteille, ça veut dire tout, ça veut dire la lumière. Eh bien, c'est ça la bouteille, Rabbi Meir Bar Nes. Rabbi Meir Bar Nes, alav shalom, il s'appelait Ram. Ça veut dire, Rabbi Meir Bar Nes, alav shalom, c'est quelqu'un qui a pu élever la halakha. C'est quelque chose jusqu'à présent, jusqu'à son époque, on ne pouvait pas bien comprendre l'halakha. Peut-être, spirituellement, le secret de l'halakha, Bishim Ron, il a expliqué. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas rentrer dans le secret. Ils veulent comprendre pourquoi. Quelque chose. Il veut comprendre. Manuel, pourquoi il ne faut pas faire ceci? Il avait ce pouvoir d'éclairer les yeux de Hachamim. S'il pouvait éclairer les yeux de Hachamim, par la plus forte raison, qu'il pouvait éclairer aussi les yeux de n'importe qui. Donc, peut-être, c'est le mois de Iyar, c'est le mois de la Ahara, le mois de la lumière. Parce que, mes amis, ce mois-là, c'est le mois qu'on se prépare tous pour recevoir la Torah. Mes amis, nous sommes tous, comme j'ai dit Shabbat, pendant, au Maroc, je me rappelle, on disait que pendant l'acte d'Aromer, pendant la Sfirat d'Aromer de Pessah jusqu'à Shavuot, on disait N'az d'Aromer. On est tous fatigués, on est un peu fatigués. Et je me rappelle mon père à la vache, il disait N'az d'Aromer, c'est le sommeil du Aromer. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, on n'a pas compris c'est quoi N'az d'Aromer. Pourquoi tout à l'heure on n'a pas sommeil? Pourquoi tout à l'heure on n'a pas envie de faire la sieste? Pourquoi pendant l'Aromer on dit N'az d'Aromer? Chacun est un peu fatigué. Et bien, peut-être, Bémet, c'est le Bémet. Moi, je pense que j'étais jeune, j'ai pas demandé la raison à mes parents pourquoi on disait c'est le sommeil du Omer, mais aujourd'hui, Baruch Hashem, aujourd'hui je comprends qu'aujourd'hui, le Itzara, il sait que chacun de nous se prépare, il sait que chacun de nous aujourd'hui, il se prépare pour recevoir la Torah. Eh bien, le Tzara, ça ne l'intéresse pas. Il veut décourager chacun de nous. Il veut, le seul moyen pour se décourager, c'est d'avoir sommeil. Sommeil, sans dormir, en plein cours de Torah, sans dormir, ne pas écouter, se laisser aller. Eh bien, mes amis, c'est ce que le Tzara il veut faire. Il veut nous faire laisser aller pendant le Omer pour se préparer moins pour recevoir la Torah. Et c'est ça la bouteille pendant ce mois-là. C'est Bémet, c'est le mois de la Hara, c'est le mois de la lumière. Et te donner la bouteille, c'est le mois que chacun il peut se libérer de ces 49 degrés de Touma'in. Chacun il peut se libérer de tout le mal qu'il a pu faire toute l'année. C'est surtout, surtout, surtout pour recevoir bien la Torah. C'est ça, mes amis, le plus important. Vous savez très bien, j'ai vu dans des livres qui disent que ne croyez pas qu'à Shavuot, c'est une fête que nous faisons simplement pour commémorer ce qui s'est passé il y a quelques milliers d'années. C'est faux. Celui qui pense ça, il se trompe. Parce que chaque année, il y a Matan Torah. Chaque année, Akadosh Baruch Hu donne la Torah à Israël. Chaque année, il y a la Torah. Ne croyez pas qu'il y a une fois, il y a 2000 ans, que le bon Dieu a donné la Torah à Israël. C'est faux. La Torah la reçoit chaque année. De la même façon que les Bnei Israël se sont préparés pendant 49 jours pour recevoir la Torah, nous aussi, nous de même, nous devons se préparer pour recevoir la Torah. Et à mon avis, le seul moyen pour se préparer, c'est Vadei, de préparer les, pour quitter la vie à l'intérieur, les Midot. Midot. Et je pense, une fois j'ai dit à l'Eshiva, que Mida c'est une action, réparer les actions. Mida c'est le Gematria du 49. Donc à bouteille, pendant 49 jours, on répare les Midot. Midot, les actions, les mauvaises actions, pour pouvoir recevoir la Torah. Mes amis, on ne peut pas recevoir la Torah si on a des mauvaises actions, si on déteste l'autre, si on est fainéant, si on n'est pas le prochain, si on n'a pas fait tel mitzvah, si on est jaloux. On ne peut pas recevoir bien la Torah, donc c'est une réparation. Donc, mes amis, c'est le mois de la Hara, le mois de la lumière, et c'est pendant ce mois-là que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est décédé. Et Rabbi Meir Bar Nes, ils sont décédés tous les deux. Même que eux, ils ont décédé, mais ils ont laissé derrière eux, quoi? La Torah, la Hara, la lumière. Mes amis, Rabbi Meir Bar Nes, alors shalom, ils l'ont appelé Rabbi Nehorai. Rabbi Meir, celui qui, comme un régénérateur, celui qui m'éhire, celui qui l'éclaire. Vous savez, Rabotai, aujourd'hui, nous vivons dans un monde de rochère, dans un monde d'obscurité. Prenez cette salle, si on l'éteint, on éteint la lumière de cette salle, et on allume une bougie, vous allez voir que cette bougie-là, elle va écarter l'obscurité. Donc, Rabotai, c'est le mois d'obscurité. Lorsqu'on est dans 49 degrés de Touma'in, c'est l'obscurité totale qui entoure la personne. Et à mon avis, mes amis, je pense que je me suis toujours posé une question, c'est aujourd'hui que j'ai trouvé cette réponse. Peut-être que je suis bête, c'est pour ça que j'ai trouvé qu'aujourd'hui. Mais je me suis toujours posé une question, pourquoi Akadosh Baruch Hu a frappé l'Égyptien avec ma quatre rochers, l'obscurité? Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas donné la lumière? Vous savez que lorsqu'il y a trop de lumière, on est aveugle, on ne voit pas. Vous savez, la bouteille, imaginez-vous, en plein été, en plein mois d'août, levez vos yeux vers le ciel, vers le soleil, et essayez si vous pouvez voir le soleil. C'est impossible de le voir. Pourquoi quand je vois qu'on n'a pas frappé l'Égyptien avec la lumière? Pourquoi Osher? Pourquoi l'obscurité? Eh bien, la bouteille, c'est le passage d'après il répond à cette question. C'est écrit, Ulchol ben Israël aya or bechol boshvotam. Ça veut dire, la lumière, il y avait l'obscurité chez les Égyptiens, mais la lumière était chez les bénis d'Israël. La bouteille, voilà où je vais arriver. Je voudrais arriver à ce point-là, que l'homme, parfois, il vit dans une obscurité totale, malgré qu'il y a la lumière. Il peut vivre dans une obscurité totale. À Kadosh Baruch Hu, de temps en temps, il essaye de lui montrer où il vit, cette obscurité, où il se trouve. Et c'est là que le juif va concevoir un peu de lumière. Les bénis d'Israël en Égypte, ils vivaient au match dans une obscurité totale. Ils vivaient comme un Égyptien. Ils faisaient peut-être, sauf des choses qu'ils ont pu préserver, mais le reste, ils vivaient comme Hachamim disent, que les Malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, ceux-là, ils sont des idolâtres, les juifs. L'Égyptien, ils sont des idolâtres. Les juifs aussi, ils sont des idolâtres. Pourquoi tu veux tuer l'Égyptien et tu veux laisser les Israélites vivants? Pour vous dire que les Israélites aussi, ils étaient de l'obscurité totale. Mais à Kadosh Baruch Hu, il a voulu leur montrer cette où, d'où ils vivaient. Et c'est ça, c'est là, quand je brûle, il leur a montré la lumière. C'est là que le juif a commencé à voir plus clair. Où, comment il vivait? Où il vivait? Dans quelles conditions il vivait? C'est ça, la bouteille, le nez, c'est Kadosh Baruch Hu, à montrer au béni Israël. Vous savez, il y a, dans un livre, c'est écrit, dans un livre, au déchet, il pose une question extraordinaire. Il dit comme ça. C'est écrit dans la Torah que les béni Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, c'est écrit, Vayar Hashem et béni Israël, Vayeda Elohim. Hakadosh Baruch Hu, il a vu les juifs, Vayeda Elohim. Et Hakadosh Baruch Hu a compris, a vu. Vayeda. Alors il pose une question. Il a vu, il a compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il a compris? Il a vu, quand je vous ai vu, je t'ai vu, j'ai compris. Il a compris quoi, Kadosh Baruch Hu? Il répond que Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu les circonstances, comment les bénis Israël vivaient, dans quel mode de vie ils vivaient avec les Égyptiens, comment les bénis Israël étaient malheureux, ils vivaient comme un Égyptien malheureusement. Bon, ils étaient forcés de vivre ainsi. Mais malheureusement, ils n'étaient pas dans la Torah. Ils y vivaient comme les Égyptiens. Baïda, Ichnis Bahem Dea. À Kadosh Baruch Hu, il a rentré, il leur a fait comprendre que ce n'est pas la manière, ce n'est pas la façon comment il faut vivre. Ichnis Bahem Dea, l'intelligence, savoir vivre. Jusqu'à maintenant, ils étaient idolâtres. Eh bien, le lendemain, ils ont compris qu'il y a un Dieu. Hier, ils croyaient qu'il y avait le Dieu égyptien. Aujourd'hui, ils ont découvert non. Il y a Kadosh Baruch Hu. Vaïda Elohim. Kadosh Baruch Hu, il a fait pénétrer l'intelligence, savoir vivre. Il a inculqué dans l'esprit de chaque juif qu'il y a un Dieu. Mes amis, cette réponse elle ne me satisfait pas. Parce que je vois que les juifs, ils sont tombés à 49 degrés de Thomas. Alors comment que je peux comprendre? Si Kadosh Baruch Hu, il a donné l'intelligence aux juifs, alors comment ils sont restés, ils sont tombés à 49 degrés de Thomas? Si mes amis, je donne à quelqu'un, si le bon Dieu donne l'intelligence à quelqu'un, eh bien mes amis, ce quelqu'un veut devenir un tzaddik, il veut devenir bien, il veut devenir un homme très bien, parfait. Comment pouvez-vous comprendre que d'un côté, il aura inculqué l'intelligence, et de l'autre côté, ils sont restés en même temps à 49 degrés de Touma? C'est pas possible. Mes amis, je pense que la réponse, elle est très importante. Vous pouvez voir des miracles. Vous pouvez vénérer Rabbi Yehuda Nes. Vous pouvez pleurer le décès de Rabbi Hagin Zechono Livracha. Ça va vous faire du mal. Cette année, on a perdu beaucoup de tzaddikim cette année. J'ai calculé 6 ou 7 grandes tzaddikim. Rav Tzedaka, Rav Hadas, Rav Fasserman, Rav Haikin, Zichron Yerachah, le Rabbi de Gour, et je ne vais pas vous citer, Rav Siegel de Manchester. Peut-être, à ma connaissance, 7 ou 8. Nous avons pleuré quelques jours, mais le lendemain, on a tout oublié. On peut voir le Emet et au même moment, on peut s'égarer. On peut écouter un cours de Torah et on est emballé. Oh, oui, il a raison. Et on sort. Après quelques heures, on oublie. Rabotai, vous savez quelque chose. On peut voir la Emet, la vérité qu'il est à côté. Et on va passer juste à côté de la vérité. Pourquoi ? Lorsqu'il n'y a pas l'Emet de la Torah. Lorsqu'il n'y a pas l'Emet de la Torah. Lorsqu'il n'y a pas Kiriot et Emet de la Torah. Lorsqu'il n'y a pas s'acharner sur l'Emet de la Torah, Yom Balayla, ou le matin, même une heure par jour. Eh bien, mes amis, on peut tomber à 49 degrés de tour. On peut dire qu'il y a un Dieu. Oui, oulala, il y a un Kadosh Baruch Hu. Je n'étais pas, j'ai moins la hâte, comme au Maroc. On était tous des gros Baal Emouna, mais il n'y avait pas la Torah à côté. Alors qu'est-ce qu'on faisait ? À Pessah, on se préparait pendant tout le mois de Pessah pour préparer Pessah. Et le dernier jour de Pessah, à 12 avant la sortie de Pessah, déjà la table de Mimouna, elle est prête. Ah oui, elle est tout Pessah. Voilà. Et c'est malheureusement. Pourquoi ? Parce que la halakha ne la connaissent pas. Et pas plus. J'étais au Maroc et j'ai prié quelque part. Et le Shabbat, le jour de le Shéri chez Pessah, j'ai fait une dracha. Et vers la fin, et j'ai mentionné ce qu'il fallait faire. Et vers la fin, il y a des juifs qui sont venus, ils sont me demander. Ils m'ont dit, mais c'est une mitzvah de préparer la Mimouna. Ils m'ont dit, c'est une mitzvah. Je dis, c'est écrit dans la Torah qu'il faut préparer la Mimouna. Il m'a dit, oui, c'est écrit dans la Torah. Je dis, quelle Torah? Il m'a dit, ben, on me l'a dit. Je dis, qui te l'a dit? Ben, je sais pas, on me l'a dit. Mais quelle Torah? Quelle Torah? Le Nouveau Testament, quelle Torah? Quelle Torah? Ah, Shalom. Il n'y a pas ça. Ça c'est faux. C'est faux. Donc, la bouteille, c'est ce qui s'est passé malheureusement en Égypte. En Égypte, ils ont eu la connaissance de Dieu. Ils ont su, à Kadosh Baruch Hu les a aidés à connaître Dieu. Mais malheureusement, sans Torah, ils sont restés à 49 degrés de tout bas. Et c'est ça, la bouteille, c'est de là qu'il faut faire attention. Mes amis, Rabbi Meir Alav Shalom, il dit comme ça. À la création du monde, Adam Arishon, il a fauté. Je veux que chacun écoute ce Ma'am Hazal. Adam Arishon, il a fauté. Une fois qu'il a fauté, malheureusement, il devait vivre l'éternité, lui et sa femme. Et malheureusement, après la faute, la Gezeret est tombée sur lui pour de mourir, lui et toutes les descendants, soit comme Mashiach, il vient. Et voilà la bouteille. Lorsque Adam Arishon l'a fauté, il avait honte de sortir. Il s'est caché. Il s'est caché sous les arbres. Il a pris n'importe quoi pour se couvrir. Il a vu qu'il était nu. Et parce que il avait honte de voir sa femme, et sa femme avait honte de le voir. Et ils avaient même honte de faire la prière. Parce que vous savez, on n'a pas le droit de prier nu. Avant qu'il y avait les tzara, ils pouvaient faire la bracha nu. Parce qu'il n'y avait pas de tzara, il n'y avait pas de mauvaises pensées. Il pouvait, Adam Arishon était avec Adam Arishon nu. Mais malheureusement, après la faute, lorsque tzara est tombé, lorsque tzara est venu, il ne pouvait plus faire la bracha nu. Ils avaient honte. Et la présence divine. Vous savez, à Bretagne, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas et beaucoup des hommes qui ne savent pas. Ils croient que quelque part seul, il n'y a personne qui le regarde. Ils se trompent, il y a quelque chose qui le regarde. La preuve d'Adam Arishon, parce qu'Adam Arishon, Alva Shalom, il s'est couvert, il s'est caché. Pourquoi il s'est caché? Il avait honte de voir Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il sentait, pourquoi Akadosh Baruch Hu est à côté? Pourquoi le bon Dieu est à côté de vous? Oui, il est à côté de vous. Sa présence, elle est à côté. Voilà, mes amis, Adam Arishon, il s'est caché. Parce qu'il sentait la présence de Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il lui donne à Kadosh Baruch Hu? Il a donné à la bouteille Bigdei Orot, un vêtement en cuir. Un vêtement en cuir, je ne sais pas, c'est pas le cuir que vous voyez aujourd'hui, je ne crois pas, ces pantalons de cuir que vous voyez aujourd'hui, ils ne pensent pas ça. C'est ce que Rabbi Meir Al-Nis qui dit, un pantalon en cuir, une veste en cuir, un blouson noir, c'est pas possible. Il n'y a pas de veste en cuir, d'accord? Adam Arishon, une veste en cuir? Pas possible. Donc, Rabbi Meir Al-Nis, à la personne, il vient et dit non, Bigdei Orot. C'est des vêtements de lumière. Des vêtements de lumière. Ça veut dire, Rabotai, c'est Bémet, c'est des vêtements. Je veux que chacun écoute ça, parce que c'est très important. Avant la faute d'Adam Arishon, je ne pense pas qu'Adam Arishon était vraiment nu. Peut-être qu'il était nu, mais il était couvert avec des vêtements de lumière lui aussi. C'est des vêtements spirituels de lumière qu'on ne peut pas imaginer. Vous savez, à côté de quelqu'un qui meurt, qui va là-haut, dans le ciel, il est habillé avec quoi? Avec un vêtement de lumière. Eh bien, c'est le vêtement que HaKadosh Baruch Hu a créé avec Adam Harishon. Des vêtements en lumière. Mais malheureusement, après qu'il a fauté, ces vêtements, ils sont partis. Ils ont disparu. HaKadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu Adam Harishon faire teshuvah, il lui a rendu ses vêtements. C'est Bigdei Orot. C'est la bouteille, c'est des vêtements de lumière. Lorsqu'on faute, l'Ahmaï Selan, comme Hachamim disent, que quelqu'un qui faute, et nous on va monter là-haut, on va avoir un vêtement. Et bien, c'est ce que Hachamim disent sur Adam Harishon aussi, lorsqu'il a fauté. Lorsque Adam Harishon, il a fait teshuvah, il lui a rendu ses vêtements de lumière. Mes amis, c'est des vêtements de lumière à beauté qu'il faut tellement travailler dur pour les préserver. Ne croyez pas que ces vêtements-là, ils sont... Bien sûr, c'est des vêtements qui sont nés avec nous. Mais malheureusement, on peut les perdre. Et lorsque... C'est ce qu'on dit, « Ashri Misheba Vital Modobiyado » lorsque quelqu'un quitte ce monde-là, heureux celui qui quitte ce monde-là, et il vient avec ses vêtements, Haluka de Rabbanan, un vêtement de Rabbanan, c'est un vêtement de Torah. Il y avait une fois un tzaddik, il était un grand tzaddik. Il voyait une fois sa femme, elle a rêvé qu'ils étaient morts et qu'ils étaient avec toute leur famille, des tzaddikim dans l'autre Olama Emet. Et voilà, il voyait tout le monde avec des vêtements. Il y avait un vêtement qui n'avait pas le. Comment ça s'appelle le col. Alors il dit à qui ce vêtement-là? Il lui dit, ça c'est ton vêtement à toi et à ton mari. Et pourquoi il n'y a pas de col? Il dit, bon, c'est parce que vous n'avez pas fait assez de mitzvot. C'est selon les mitzvot que vous allez faire un beau vêtement pour vous. Elle se réveille le matin et dit à son mari, comment? Tous nos amis, toute la famille, ils ont des vêtements avec un col et nous, on va monter là-haut, on va avoir un vêtement, et bien, je ne fais pas sur nous. On ne pourra même pas le faire entrer sur nous parce qu'il n'y a pas de col, on ne peut pas faire entrer la tête. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait le demain matin? Ils ont vendu chez eux, leur maison, tout ce qu'ils avaient, et ils ont fait tzedaka avec cet argent, et c'est le soir qu'ils ont rêvé encore leurs vêtements avec un col. C'est ce que j'appelle la beauté Hanouka de la banane. Travaillez toute une vie pour avoir ce beau vêtement qui va vous couvrir dans l'autre monde. Parce que la beauté dans l'autre monde, Rahmaï Selan, on peut rester nu dans l'autre monde si on n'a pas un vêtement. Et ce vêtement, c'est nous qu'on le prépare dans ce monde-là. Et c'est ça la beauté la bin mi'ir ala vashalom. La bimi'ir ala vashalom, c'est lui qui l'a illuminé, c'est lui qui l'a éclairé. Am Israël et Hamim, par sa Torah, pour pouvoir comprendre davantage les mitzvot, pour pouvoir avoir Haluka de Rabbanan. C'est ce vêtement de lumière qu'on peut bien porter et sans honte. Taï, un pasouk qui dit comme ça. Mi tineni ki rechid kedem ki mi lukai shmireni bahalo nero ale roshi l'euro et le chosher. Un pasouk dans Iyov. Vous savez, à côté Iyov, qu'est-ce qu'il dit? Iyov, il dit, qui peut me donner ce bon temps, ce bon moment que j'étais dans le ventre à ma mère? Lorsque j'étais dans le ventre à ma mère, j'étais un bon juif. Lorsque j'étais dans le ventre à ma mère, il y avait une lumière, une bougie sur ma tête. Cette bougie, la Hachamim me dit qu'un malach, il enseigne la Torah à la personne. Et la lumière, une bougie qui est sur la tête du bébé et qui apprend la Torah. Et la bouteille, de l'obscurité, il voyait la lumière. Le ventre est obscur, mais il y avait une lumière. Ce bébé qui voit la lumière. Qu'est-ce qu'il veut, Iyov? Il dit, qui peut me donner Ahsra? Ahsra, alors j'étais dans le ventre à ma mère. C'est ce que Iyov, il est en train de pleurer. La bouteille, c'est très facile de dire ceci. Que Bémet, lorsqu'on est dans le ventre à ma mère, chacun dans le ventre à sa mère, c'est très joli, c'est très beau. Mais il n'y a aucun effort. Il n'y a aucun effort. Il n'y a aucun effort qui peut être fait. C'est très beau. Il y a Malach qui est là, il t'enseigne la Torah. C'est très beau, c'est très joli. Mais à mon avis, il y a Bouteille. Le plus beau, la chose la plus importante, c'est de sortir du ventre de la mère. Et c'est à toi d'écarter l'obscurité. Et c'est à toi d'illuminer ton chemin. Ben c'est très beau de le voir dans ta mère, il n'y a pas de tsara, il n'y a rien du tout. Tu viens, tu es tranquille, tu es assis sur un fauteuil, et il y a là-bas tout le monde qui. Tu manges gratuit, tu ne payes pas de loyer, ouais, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de problème, pas d'impôt, rien, tu es tranquillement. En plus, tu as un malach qui t'enseigne la Torah, en plus, il n'y a pas de tsara, il n'y a rien du tout. C'est très beau, c'est très joli. Non, mes amis. À mon avis, bien sûr, c'est très. Ah, ça, c'est. Non, qui peut me donner ce beau temps-là? Mais à mon avis, c'est bien de dire de temps en temps, ah, qui peut me donner ce beau temps-là? Et pour pouvoir dire, bon, maintenant il faut faire quelque chose. Il faut, de tes propres moyens, faire quelque chose. Vous savez, à la bouteille, il y a beaucoup de gens. Et le plus important, c'est qu'est-ce que Yovil dit, les oros et les rochers. Dans l'obscurité, je voyais la lumière. Vous voyez la bouteille? Qu'est-ce que la Torah peut faire? Qu'est-ce que la Torah? Parce que il y avait un malach qui lui a enseigné la Torah, et bien c'était ça la lumière. C'est ça la vraie orot. C'est ça le vêtement. C'est ça la bouteille. C'est ça la bouteille. La vraie lumière de la personne. La vraie lumière lorsqu'il voit clair. Comment il pouvait voir clair? C'est pas la Torah. Combien de tzadikim, mes amis? Il pouvait marcher dans l'obscurité. Il voyait. La pichon va yahya va shalom. Et tous ces grands tzaddikim que le peuple juif a eu, vous croyez qu'ils avaient peur de tomber dans un trou s'ils marchaient dans l'obscurité? Non! Ils voyaient la lumière de partout. Pourquoi? Parce que la Torah, ve'alach lefanecha tzidkecha, il y a toujours la Torah qui va en face de toi. Il y a toujours la Torah qui t'ouvre le chemin, comme une pile, la pile qui t'éclaire le chemin. Même que tu es dans l'obscurité, il y a la Torah qui t'aide à marcher davantage. Lorsque le bébé est dans le ventre à sa mère, orli, et elle avait une lumière, parce qu'il y a un malach qui lui enseigne la Torah. Mes amis, les Baalim Moussar, ils disent, dans cet aussi livre-là, Oriyash Hadash, qu'aujourd'hui, je l'ai ouvert et je suis tombé sur quelque chose d'extraordinaire qu'il dit. Il dit comme ça. Il dit que Hazal Hachamim, ils disent, ce prière qu'on fait le jour de Kippour et ce prière que chacun de nous il peut faire lorsqu'il a un problème. Lorsqu'on a un problème, on a le droit de dire fais par la grâce des enfants qui n'ont pas fauté. Parce que les enfants, ils ne peuvent pas fauter. Les enfants, ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas d'intelligence. Nous, les hommes, on peut fauter malheureusement, on peut faire même une mitzvah hypocrite. Mais les enfants, ils ne fautent pas. L'enfant, s'il mange tréfa, c'est parce qu'il ne sait pas. C'est pas parce qu'il veut se régaler, il veut manger tréfa. Non, parce qu'il ne sait pas. C'est ce que Hachamim dit. Ils disent, Hachamim, il faut toujours prier bisrout des enfants, pas le mérite des enfants. Le Baal Ohadash, il dit, c'est quoi un enfant? Voilà, il veut essayer de comprendre c'est quoi un enfant. Pourquoi on doit prier par le mérite d'un enfant? Pourquoi je ne vais pas prier par un mérite d'un tzaddik? Pourquoi un enfant? Qu'est-ce qu'il a de spécial un enfant? Il dit comme ça. Il dit, prenons un exemple. Lorsqu'on voit un enfant jouer avec du sable, ou un enfant qui joue avec une pierre, un enfant qui pleure, tu lui donnes une pierre. Une pierre qui ne coûte rien du tout. Une pierre, lorsqu'on trouve une pierre à la maison, on la jette. Et lorsque tu lui donnes une pierre, il commence à le regarder, il commence à rigoler tout seul. On dirait tout son monde à lui, il est dans cette pierre. Tu relèves la pierre, il commence à pleurer. Prends un enfant, tu donnes un peu de sable pour le calmer, tu vois du sable, il commence à jouer, il se régale, il veut même le manger. Mais tu donnes un papier va jouer avec. Tu relèves le papier, il commence à pleurer. Est-ce qu'on va dire, ce bébé c'est un fou? Comment? Un morceau de papier pourri, il joue avec? Il est fou. Non, mes amis, ce bébé n'est pas fou. Il dit comme ça, il dit que les enfants, Yud'im, les enfants, ils savent le erreur, ils savent la valeur de chaque chose que la Kadosh Baruch Hu a créée. Les enfants, ils savent la valeur. Parce que, mes amis, les enfants, lorsqu'ils sortent du ventre à leur mère, ils sont encore attachés à la Kadosh Baruch Hu. Parce qu'ils ont étudié la Torah dans le ventre de leur mère. Ils sont encore attachés à Dieu. Alors, ils ont. Dans le ventre à leur mère, le malach, il leur enseigne que chaque création, chaque chose que Dieu a créée, il a une valeur. Si la pierre n'a pas de valeur pour vous, l'enfant, Parce que malheureusement, vous ne connaissez pas la valeur de la pierre. Parce que la pierre, attends, je ne voudrais pas créer la pierre pour rien. Elle a une valeur, la pierre. C'est que toi, tu es bête. Tu ne veux pas penser à la pierre. Tu veux penser à un diamant. Un diamant, oui, un diamant, oui. Il a de valeur. Et une pierre, non, il n'a pas de valeur. Et pourquoi? Mais le bon Dieu a créé la pierre. Et pourtant, la pierre, elle te sert pour construire une maison. Si elle n'est pas la pierre, on ne peut pas habiter. Pourquoi la pierre, non? Et le sable, c'est très important. Si elle n'est pas le sable, comme ils disent, que la mer, elle aurait envahi le monde entier. Elle aurait envahi le monde entier. Il a fait Akadosh Baruch Hu inonder le monde entier. Akadosh Baruch Hu, il a fait un gvoul. Akadosh Baruch Hu, il a fait une barrière à la mer pour qu'elle n'envahisse pas le monde avec le sable. Alors le sable, il est important, le sable. Les Juifs, eh bien, ils ont été bénis par le sable. Que Am Israël, il se multiplie comme le sable. Tant que le sable, il est incontable, Am Israël ne peut pas être compté. Alors, Rabotek, comment pouvez-vous comprendre ceci? Que nous, on peut rigoler du sable, et les enfants, ils prennent le sable comme quelque chose d'important. La réponse, elle est simple, il dit. Que l'enfant, il connaît la valeur de chaque chose que le bon Dieu a créée. À mon avis, l'enfant, il a une lumière, il y voit clair. La Torah qu'il a étudiée, il lui rend les yeux clairs. Lorsqu'on grandit, malheureusement, voilà ce qui se passe. On n'a plus de valeur, on ne donne plus la valeur à n'importe quoi. C'est rien, c'est une pierre. Parce qu'on est aveugle. C'est parce qu'il n'y a pas de lumière. On ne voit pas clair. On ne veut pas, peut-être on ne veut pas voir clair. Mes amis, tout à l'heure, j'ai pensé sur ce que Hachamim disent. Au moment que Hakadosh Baruch Hu a donné la Torah à Israël, c'est écrit Vayekhu Takolot. Ils ont vu les voix. Ils ont vu les voix. C'est quelque chose à bouteille qui est discutable. Parce que les voix, on ne les voit pas. On peut voir un monsieur marcher. On peut voir quelqu'un qui parle. Mais est-ce que vous voyez la voix? Est-ce qu'une voix, vous la voyez? La voix, on ne la voit pas. On ne peut pas la sentir, la voix. La bouteille, à mon avis, c'est quoi avec Ota Kolot? C'est quoi, ils ont vu les voix? Lorsque quelqu'un voit clair, lorsque quelqu'un, la bouteille, il peut arriver à voir très clair, je crois que les gens qui peuvent voir un peu clair, c'est les gens qui font des chouva. Les gens qui perdent quelqu'un de leur famille, ils voient quelque chose, la chose claire. Ils voient le senti, ils voient. On a perdu quelqu'un. Il commence à prendre une prise de conscience eux aussi. Que voilà, j'ai perdu mon père. Voilà, j'ai perdu ma mère. Voilà, de la même façon que j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Nous aussi, on va suivre ce chemin. Voilà, on a perdu un grand tzaddik. Et voilà, c'est un tzaddik qui est parti. Qui sommes-nous pour rester vivants? Alors, c'est ça la bouteille. Veillez-vous. Voir. Voir, c'est du verbe hara. Voir, c'est la lumière. La lumière, elle ne peut atteindre, elle ne peut éclairer les yeux de n'importe qui. Jusqu'à quand? Jusqu'à Kolot, c'est la Torah. Jusqu'à qu'il s'attache à la Torah. Si quelqu'un il s'attache à la Torah et faire Torah mitzvot, c'est là qu'il va voir clair. Et mes amis, je termine avec une histoire que j'ai entendue. Qu'une fois, il y avait un monsieur qui venait chez un rabbin. Il avait les cheveux longs. Ce rabbin, il croyait que c'était une fille, il a dit, toi, va à la Hazara, va avec les femmes que tu fais ici. Et ce monsieur-là, finalement, il a dit, moi, je suis pas une fille, je suis un homme. Ah, pardon, il lui dit, rentre, avec la Midrash. Il a passé une journée à l'étude, à la Yeshiva, et vers le soir, il dit au rabbin, c'est beau la Yeshiva, j'aime la Yeshiva, mais ça me manque les disques, ça me manque tel et tel chanteur, ça me manque tel et tel chanteur. Je suis attaché à ces chansons-là, je peux pas. C'est beau la Torah, j'ai bien compris, je vais mettre. Il n'y a pas comme la Torah, mais c'est dur. Il lui dit, bon, chez nous aussi il y a des chanteurs, comme tel et tel, comme tel et tel. Viens ce soir, tu vas les écouter. À partir de minuit, tu vas écouter les plus beaux chanteurs du monde. Il dit, quoi, ici dans cette yeshiva, les chanteurs qui est, par exemple, ne t'inquiète pas. Il dit, quoi, Elvis Presley, tel et tel. Il dit, non, on a des chanteurs plus importants que ce genre. Et le soir, il attendait le soir avec impatience. Et voilà, à voter à minuit, les élèves sont descendus à la yeshiva pour faire Kol Hatzot, pour pleurer Beit HaMikdash, chanter les kilotes de Beit HaMikdash. Et Rabotaï se tourne vers le monsieur et lui dit, tu as vu mon fils? Voilà nos chanteurs. C'est nos chanteurs. Et c'est ça la bouteille. Un homme, pour voir clair, il faut qu'il s'écarte du mal. Un homme ne peut pas faire teshuvah. Un homme ne peut pas voir la lumière. Un homme ne peut pas voir la vérité tant qu'il est attaché avec le mal. C'est impossible. Je suis attaché à un chanteur, Goy, avec un Walkman. Et en même temps, je vais à la yeshiva et je prends un cours d'autorat ou je vois un film. Ça ne peut pas marcher. Jamais tu verras la chose plus claire. C'est impossible. Les bénisseurs en Égypte, tant qu'ils étaient encore égyptiens et juifs, ils sont tombés à 49 degrés de Thomas. Il faut choisir ou là ou là. Et c'est ça la bouteille. On ne peut pas choisir et les chansons et la yeshiva. C'est impossible. C'est deux éléments qui sont contradictoires. C'est impossible. Pour pouvoir voir la lumière, il faut faire un choix. Ou ceci ou cela. Et c'est ça la bouteille, je pense. Ce que chacun, où il doit arriver. Et je termine la bouteille avec ce ma'amar. Que c'est écrit dans la Torah, Ishak et Télède, ça c'est pour les femmes que je dis ça, c'est quelque chose que j'ai dit il y a deux semaines, la semaine dernière à Bouteille, je vous dis que la semaine dernière, c'était le esguer d'une femme qui était très importante à Paris, qui est décédée à l'âge de 40 ans, la pauvre. C'est, je peux dire son nom, il est très connu, c'est la femme de Elia Bersera, qui était, c'est le fils de Rabbi Haïm Bersera de Paris. Et j'ai parlé ce soir là-bas. La pauvre était, comme j'ai dit, une femme qui dirigeait cette société, une femme qui était capable, elle pouvait faire 5 ans, la façon elle pouvait parler avec un président sans être humiliée devant lui. Elle était bien agréable, d'une capacité extraordinaire. Mais elle a fait une bonne vida. Je ne sais pas ce qu'elle a fait dans sa vie, mais je peux vous dire, elle a souffert pendant un an avec une maladie grave et ne s'est jamais plainte. Et c'est ce que je dis. Havivin Issourin. Hachamim disent, un homme peut être un grand rachat. L'Issourin, les souffrances, ils font non pas être pardonner les péchés, mais les souffrances, ils prennent la personne à Olam Haba. Quelqu'un qui sait souffrir, prendre son mal et ne pas se protester, c'est extraordinaire. Ça veut dire, tu prends ton mal avec cœur, avec joie. Merci à Kadosh Baruch Hu. Ça, je peux dire ça sur elle. Sur le reste, je ne peux pas dire sur elle parce que je ne la connais pas. Donc, c'est péché pour moi de dire des choses que je ne connais pas sur elle. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce soir là-bas, j'ai dit une phrase. J'ai dit quelque chose que j'avais répété à la Yeshiva il y a quelques semaines sur la parasha d'Azria. C'est écrit Isha kit Azria Azera viada Zahar. Si une femme est enceinte, elle enfante un enfant, un garçon. Voilà, c'est ce que la Torah dit. Une femme qui est enceinte, elle enfante Bialda Zahar. Une femme qui sème, semer, c'est ce que la Torah l'a dit. Ça veut dire semer, comme quelqu'un qui sème son jardin, son champ, et après, pour avoir une belle récolte. Frère Bouteille, je pense comme ça. Aujourd'hui, mes amis, chacun, il veut avoir un nom. Chacun veut avoir une réputation. Chacun veut laisser derrière lui un nom. Finalement, on est tous limités. Finalement, si on prend prise de conscience tous, Frère Bouteille, je répète une phrase que j'ai écoutée pendant les semaines de Rabbi Haïm Zeman Levrachah. Il y a une phrase qui m'a choqué. Et de Béhémeth, je pense à cette phrase. Je ne crois pas qu'il y ait un jour qui m'échappe sans penser à cette phrase. Et c'est une phrase qui m'encourage. Surtout maintenant que je suis un peu, j'ai beaucoup de problèmes en ce moment-là, de tous les côtés. Et cette phrase-là, la bouteille, elle me donne beaucoup de moussard, beaucoup de pouvoir. Je vous répète, c'est exactement ce que j'ai écouté. Il y a deux rabbins qui sont partis le visiter 2 jours avant son décès. Et vous savez ce qu'il leur dit? Il leur dit, la vie sans la Torah, ce n'est pas une vie. La vie sans la Torah, ce n'est pas une vie. Ça veut dire, à Bouteille, un homme qui est mourant, un homme qui est malade, un homme qui n'arrive même pas à parler, qu'est-ce qu'il regrette le plus? Qu'il ne peut pas étudier la Torah. Un homme sans la Torah, ce n'est pas un homme. Ça veut dire, je préfère être malade, mourir, mais ne pas rester sans étudier. Et c'est ça, mes amis, ce qu'il a dit après qu'il se prenait la femme, c'est tiré de la Gemara. Parce qu'il y a une Gemara qui dit, c'est bien les souffrances. Il y a une Gemara qui dit, Je préfère ne pas avoir des Issourim, je préfère ne pas avoir des Issourim. Je préfère ne pas souffrir. Alors, d'un côté, on dit c'est bien les souffrances, d'autre côté, celui qui nous dit c'est pas bien les souffrances. La réponse, elle est simple. C'est bien de souffrir. Mais lorsque quelqu'un qui est attaché à la Torah, il ne veut pas les souffrances. Parce que sa plus grande souffrance, déjà, c'est parce qu'il ne peut pas étudier la Torah. Déjà, il souffre qu'il ne peut pas étudier. C'est une souffrance qui est double. Il souffre d'un côté, il est malade parce qu'il a mal à la tête, et d'autre côté, il souffre parce qu'il ne veut pas étudier la Torah. Donc, la souffrance, la Torah, elle est double. Voilà, bouteille, c'est très important cette phrase-là. Voilà, la bouteille, ce qu'il faut savoir, finalement, un homme, ou une femme, ou une famille, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent leur réputation, ils veulent que leur nom, ils continuent. Jusqu'à maintenant, on dit qu'on évoque son nom. Tout c'est tzadikim. On va encore évoquer son nom, peut-être encore quelques années, parce que je ne veux pas dire des centaines d'années, parce que ça veut dire que ma chère ne va pas venir. Je dis quelques années si Dieu veut. Mais pourquoi? Parce qu'il a laissé, il a semé quelque chose. Il a semé quelque chose qui ne va jamais être détruit, si Dieu veut. Il va toujours continuer. Et c'est ça la bouteille. Lorsque quelqu'un s'appelle Cohen, c'est pas être Cohen par le nom. Il faut qu'ils pensent que Cohen, ils étaient des prêtres. Il faut que des Kohanim, Gidolim, qu'ils ont travaillé avec un Migdash, il faut que leur nom, il continue tout le temps, éternellement. Moi, je m'appelle Pinto. Eh bien, la bouteille, c'est pas parce que je m'appelle Pinto, ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Non. Il faut que je fasse tout pour faire à mes ancêtres. Mais vous aussi, vous êtes pareil que moi. Parce que vous aussi, vous avez tous, chacun, il n'y a pas ici un qui n'a pas zéro tabot. C'est faux. Un que peut-être que vous n'avez pas gardé vos trichons. Mais chacun, 100% ici, il a zéro tabot. C'est pas possible. Chaque juif, il a épouse. Il a une descendance de cette équipe. C'est impossible que quelqu'un ici n'a pas. Tous, au pire des cas, c'est Abraham, Isaac, Yaakov. Voilà. Mais je dis, donc la bouteille, le plus important chez les femmes, qu'est-ce qu'ils veulent des femmes? Les femmes, ils veulent des enfants. Bien. Et surtout, les femmes, c'est eux qui reposent la famille. Lorsque le mari travaille, c'est la femme qui doit soutenir la maison, c'est la femme la responsable, c'est la femme qui doit éduquer, c'est la femme qui doit faire manger, c'est la femme qui doit faire tout le travail de la maison. C'est la femme qui doit semer. Elle doit semer quelque chose qui doit rester éternellement, mes amis. Et chaque étazria, zera, yada zahar. Si une femme, elle fait une belle agriculture, elle sème bien son jardin, elle éduque bien ses enfants, elle donne à ses enfants une bonne éducation juive, qu'elle envoie ses enfants à l'école juive, que ses enfants, ils ont cette éducation de Torah, alors, yada zahar. Zahar, c'est du verbe zecher. Elle va enfanter une descendance qui va laisser un zécher, qui va laisser un souvenir. C'est pas s'appeler. Je vais en parler. Si je prends quelqu'un, son grand-père, c'est un grand tzaddik. Et lui, il n'est pas tzaddik. Et lui, il n'est pas. Il ne pratique pas. Ça y est, c'est fini. C'est fini pour toute la famille. Aujourd'hui, la bouteille, une femme m'a appelé de Nice ce matin. Elle m'a dit, est-ce que je peux vous parler pendant 5 minutes? Oh, j'ai dit 5 minutes, ça veut dire un quart d'heure. Je sais, c'est un quart d'heure. Elle me parle de ses 3 enfants. Une histoire catastrophique. Et qui s'est terminée vers la fin? Que cette femme-là, elle est une grand-mère, tous ses enfants, 2 garçons et une fille, qui sont mariés avec des goïms, et qu'ils ont des enfants, qu'eux aussi, ils sont avec des goïms, ça veut dire que cette famille, déjà, elle est rasée. C'est là, sauf s'il y a un miracle que quelqu'un ait fait un teshuva. Voilà, ça y est, la famille est finie. Et c'est ça la bouteille. Isha Kitazria, c'est une femme qui fait bien, qui sème bien son jardin, sa famille, elle donne une bonne éducation. Elle va enfanter un zéher, un souvenir. La bouteille, ce soir, puisque nous sommes le soir de la Hiloula de Rabbi Meir, laissez la Shalom. Alors je vous dirai que Mi'ir, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est du verbe ara, c'est du verbe voir. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Ma'ané, Sardar Bashalom, ils sont décédés le mois de Iyar, le mois de la lumière. Ce mois de la lumière à Bouteille, qui est le mois Béhémet de la lumière. Parce que vous imaginez, c'est quoi? Quelqu'un qui est dans 49 degrés de Tum'a, quelqu'un qui est dans la Tum'a totale, dans l'impureté, et qui devient pur, c'est pas la lumière, c'est Orot de HaKadosh Baruch Hu, parce que l'homme, finalement, comme il dit dans les livres de Kabbalah, de Biba Mazoulay, à la Vache Shalom, il dit que l'homme, le but de chacun de nous, c'est les kasher et ta olamot. Que le but de chacun de nous, c'est de coller les mondes, de s'attacher à HaKadosh Baruch Hu. S'attacher, c'est impossible. Mais de coller et de recoller. Comment coller? Il y a des tuyaux? Oui, il y a des tuyaux. Il y a des tuyaux à la bouteille. Vous savez, la bouteille, lorsque c'est lié. Lorsque quelqu'un a mal à la tête, automatiquement il a mal au pied. Si quelqu'un a mal au pied, lorsqu'il prend des médicaments, c'est. Vous savez. Lorsqu'on touche à la main, lorsqu'on pique quelqu'un, c'est tout son corps qui a mal. Avec la bouteille, c'est toute la création qui a mal. Lorsqu'on faute, ben c'est toute la création qui est en danger. Et Baruch Hashem, ce mois-là, quand je vous en ai donné, un mois de Hachana, un mois de préparation, un mois de lumière, un mois de lumière matana, un cadeau de Dieu, un cadeau de HaKadosh Baruch Hu, et quand je vous nous a fait un service, on fait deux hilulot, deux grandes tzaddikim. Pour s'ouvrir, pour ouvrir l'appétit à la Torah, pour s'ouvrir l'appétit à la Torah, pour se préparer davantage. Parce que mes amis, vous ne pouvez pas étudier la Torah sans l'aïmouna. Si vous n'avez pas la foi, votre Torah n'est pas une Torah. Parce que comme tu m'as dit une fois, mon rab, la Shamaï Shalita, une fois il m'a dit qu'il est parti en Sud-Afrique pour ramasser de l'argent, et il est rentré dans un magasin de quelqu'un, il avait un monsieur, un gros monsieur, qui était avec son kippa sans rien du tout, en train d'étudier la Gemara. Il y avait à côté de lui 2 ou 4 livres ouverts. Et le rabbi lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, j'aime la Gemara. Alors le Shema, il pose, et Shabbat, tu es ouvert? Et bien sûr, c'est Shabbat que je suis ma plus dangereuse, c'est Shabbat. Alors il nous a dit, alors quoi ça lui sert la Gemara? À quoi ça lui sert cette Torah? Il aime la Torah. Mais l'Aimuna, il n'a pas. L'Atshemaïm, il n'a pas. Et c'est ça le mois de hier, c'est un mois de hachana, un mois de préparation, un cadeau de Dieu pour pouvoir recevoir la Torah. Yiratson, quand on se voit au cours, il nous aide pour pouvoir accueillir Be'ezrat Hashem et Mashiach Be'ezrat Hashem Shabbat Shalom.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox www.torah-box.com pour l'enseignement du judaïsme par des rabbanim différents sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.